Vous écoutez On lit pour vous.
Appartement Papineau, tricoter le tissu social, un texte d'Émilie Côté paru le 11 août 2024 dans la presse. Le jeudi 15 août 2024, les locataires des appartements Papineau dévoilent les arches parées de tricot de leur immeuble de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Ce projet, pour animer le voisinage, veut aussi envoyer le message que les organismes communautaires ont cruellement besoin de financement alors qu'ils sont au front de la prévention de la solitude et de l'itinérance. Un projet pilote unique aux appartements Papineau. Quand une locataire des appartements Papineau a dit à l'organisateur communautaire Jean-François Lamontagne qu'elle voulait apprendre à tricoter, ce dernier a eu une révélation en tombant sur le site web de Karine Fournier qui fait des installations de tricot graffiti. « On va tricoter du tissu social », s'est-il emballé. Le tricot graffiti est une façon d'enjoliver un espace, de revendiquer l'espace public et d'unir des gens derrière un projet commun. C'est en plein ce que Jean-François Lamontagne cherchait à faire avec ses locataires des 139 appartements dont la plupart sont supervisés. Son message? Les organismes communautaires ont besoin d'aide. Il ne s'en vante pas, mais Jean-François Lamontagne est au cœur de la prévention de l'itinérance. La plupart des locataires des appartements Papineau ne peuvent être laissés à eux-mêmes. Certains l'ont été, ce qui les a menés à la rue. Embauché en 2022 par la Société d'habitation populaire de l'Est de Montréal, CHAPEM, qui a le mandat d'offrir des loyers abordables, Jean-François Lamontagne œuvre au sein d'un projet pilote. « Je fais le pont entre des gens dans le besoin et des services », résume celui qui porte le titre d'organisateur communautaire et d'agent de milieu. Jean-François est certainement au milieu de tout l'organigramme plutôt complexe des appartements Papineau qui regroupe 139 locataires dans un immeuble de l'avenue Papineau au sud de la rue Bélanger. Une centaine de studios sont supervisés par 4 organismes qui ont des bureaux sur place, soit le Mûrier, la maison L'Échelon, le Parcours et le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement, CRDI-TED. Certains des quelques 40 autres locataires sont des électrons libres, comme on les appelle, alors que d'autres suivent le programme « Toi d'abord » dans le cadre d'une mise en liberté. Enfin, il y a des ententes de service avec 3 différents centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, CIUS, du Nord, de l'Est, du Centre-Sud. Mon but est d'unir tout le monde avec une vie communautaire, résume Jean-François, qui amène des locataires au parc, au café du coin. Il regarde avec eux des matchs de hockey et il les fait même parfois sortir à la campagne pour aller cueillir des pommes. On défait un paquet de nœuds et de tensions entre des locataires qui ne se parlaient pas, dit-il. Puis on développe des habiletés sociales. Je fais aussi du suivi psychosocial avec ceux qui le désirent. Il peut aider un locataire à recevoir un diagnostic de trouble obsessionnel compulsif ou à avoir de l'aide pour l'entretien ménager. Des cours de cuisine à domicile, un recours à la banque alimentaire, un retour à l'école. C'est à la carte, expose-t-il. Je suis comme un bottin de ressources. Je suis un facilitateur ou encore une courroie de transmission. C'est souvent quand un locataire demande à Jean-François de l'aider avec un robinet fumigant ou quand il fait des bacs à fleurs dehors que les besoins se manifestent au détour d'une conversation anodine. Chose certaine, l'organisateur communautaire intègre dans la société des gens dans le besoin qui souvent dérangent. créer un milieu de vie. Le projet pilote, dont est au cœur Jean-François, est né après la pandémie. Pendant les périodes de confinement, le crime organisé s'était emparé des appartements Papineau, comme c'était le cas avant que la Chapem les retire du marché et en devienne l'acquéreuse il y a 30 ans, rappelle son directeur général, Jean-Pierre Rassette. Car certains criminels n'ont aucun scrupule à exploiter des gens vulnérables en leur fournissant de la drogue gratuite en échange de leur appartement pour de la revente ou de la prostitution. Après l'embauche d'agents de sécurité, une solution temporaire, la Chapem voulait que les appartements Papineau redeviennent un milieu de vie sain. On voulait créer une dynamique pour que les gens s'approprient l'immeuble, explique Jean-Pierre Rassette. Moins de 2 ans après l'embauche de Jean-François, les retombées sont manifestes. Les locataires des appartements Papineau ont eu la chance de faire du jardinage dans la ruelle et même d'aller à la cabane à sucre. Le prochain grand projet de groupe, décoré de tricots, les arches emblématiques de leur immeuble. Des initiatives comme celle du projet pilote de la Chapem sont hyper importantes, fait valoir Alexandra Arsenault du RTCPP. Alors que nous prenons part à l'un des ateliers de tricot, un après-midi de juin. Beaucoup de gens se sentent abandonnés par les institutions, indique-t-elle. C'est important dans un quartier comme le nôtre que différentes populations se rencontrent. On ne peut pas exiler des gens de nos communautés. Derrière les appartements Papineau, au nord du parc Montcalm, la Chapem et le RTCPP chapeautent le projet citoyen La Ruelle pour toutes et tous. On y organise des activités de voisinage pour rendre les lieux plus conviviaux. Vous écoutez Appartement Papineau, tricoter le tissu social, un texte d'Émilie Côté, paru le 11 août 2024 dans la presse. Les intervenants tombent au combat. Alexandra Arsenault souligne à quel point les organismes communautaires sont au front d'enjeux sociaux comme l'intégration sociale, la crise du logement et l'itinérance, tout en manquant cruellement de financement. « Nous sommes du cheap labor », dénonce-t-elle. Et les collègues tombent au combat. « On fonce tout droit dans un mur », appréhende-t-elle. Aujourd'hui, ce sont vraiment des populations différentes qui se retrouvent en situation d'itinérance. Sur le terrain, nous ne sommes pas prêts pour ça. Nous travaillons à effectifs réduits. Et les gens sont brûlés, renchérit Jean-François. Les délais pour des ressources, notamment en santé mentale, sont trop longs, constate-t-il au quotidien. Jean-François Lamontagne espère que le projet pilote des appartements Papineau sera reproduit ailleurs. Karine Fournier est, pour sa part, emballée par la mission sociale de son projet avec les locataires. « On va ajouter de la couleur au quartier et l'animer », promet-elle. Si le tricot est un prétexte pour que tous échangent, il y a une grande symbolique dans la lenteur du geste et dans l'idée de juxtaposer les œuvres de tous pour parer les arches. C'est de prendre le temps de construire quelque chose de grand petit à petit. Refaire sa vie de fil en aiguille. Ils sont une quinzaine autour de la table à tricoter. Des locataires et des intervenants. Des voisins et des proches aussi, dont la fille et la compagne de Jean-François Lamontagne, organisateur communautaire et agent de milieu aux appartements Papineau. Edith, les noms de famille des locataires des appartements Papineau demeurent confidentiels. Locataire aux appartements Papineau depuis 2022, en a long à nous raconter. Nous sommes bien ici. Les gens sont fins avec nous. On va au parc, on joue aux cartes. Nous avons même fait du karaoké. Edith a 2 enfants qui ne comprenait pas pourquoi elle devait souvent être hospitalisée en raison de sa santé mentale imprévisible. Quand un cancer a emporté sa mère, qui s'occupait d'elle, tout a basculé. « Je les ai toutes faites », lance Edith à une autre locataire, Eliane, qui lui demande par quelles ressources d'hébergement pour femmes en situation d'itinérance elle est passée. Pavillon Mackenzie, la rue des femmes, le Chaînon, Maison Jacqueline, à l'abri de l'espoir, énumère-t-elle. C'est dur de ne pas savoir où tu vas coucher, où tu vas manger et où tu vas prendre ta douche. Pour sa part, Eliane est arrivée aux appartements Papineau en février 2024. Vous savez ce que j'ai aimé le plus à date ici? L'éclipse, se remémore-t-elle avec des étoiles dans les yeux. Diane, tricoteuse d'expérience, est l'une des doyennes parmi les locataires. Je vis ici depuis 24 ans. C'est beau et c'est propre chez nous. J'ai des poupées de porcelaine, dit-elle fièrement. J'ai fait des jetées que je vendais 35 $. À l'autre bout de la table, il y a Sana, qui vient juste d'apprendre à manier la laine et les aiguilles et qui est très concentrée sur sa tâche. Il est assis à côté de Richard, qui n'est pas locataire aux appartements Papineau, mais qui a entendu parler de l'activité au local communautaire La Place, situé tout près au parc Montcalm. La vie de Richard est un roman qui inclut des chapitres dans l'armée et à l'Institut Philippe Pinel, à la fois comme intervenant et père aidant, le tout à travers différents diagnostics de type de schizophrénie. Personne n'a une santé mentale parfaite, lance celui qui a été marié et qui a deux enfants. Si on veut changer le monde, il faut commencer par soi-même. Se former une nouvelle famille. Or, l'isolement guette ceux qui ont des périodes creuses. Quand nous avons des problèmes de santé mentale, nous pouvons être intenses dans notre maladie et ce n'est pas facile pour les membres de notre famille. Il faut accepter qu'ils prennent une distance, explique Richard. Richard est suivi par plusieurs intervenants, mais ces derniers ne se parlent pas nécessairement entre eux, si bien qu'il se sent souvent laissé à lui-même. Alexandra Arsenault, agente de mobilisation citoyenne au regroupement des tables de concertation de la Petite Patrie, souligne à quel point un milieu confortable, comme celui des appartements Papineau, prévient la marginalisation. On sous-estime à quel point un divorce, une perte d'emploi ou une santé mentale fragile peut tout faire basculer chez des gens vulnérables et les mener à la solitude, puis potentiellement à l'itinérance. C'est quand nous sommes seuls dans nos appartements à ne pas sortir que le hamster se met à tourner, dit Richard. En se déplaçant dans un lieu communautaire, on s'oxygène et on parle de ce qu'on vit en faisant du social. Je me suis formé une famille ici, lance Edith, en soulignant à la blague qu'elle et ses camarades des appartements Papineau sont quand même assez grands pour se garder la nuit. De la laine, quoi de mieux pour créer un tissu social, dit si bien Jean-François Lamontagne. Mais on commence à trop l'étirer. C'était Appartement Papineau, tricoter le tissu social, un texte d'Émilie Côté, paru le 11 août 2024 dans la presse.
Je t'aime, Communauto. Mais... Un texte de Philippe Mercure, paru le 15 août 2024 dans la presse. Vous ne pouvez pas terminer votre trajet car vous êtes hors zone, m'a annoncé la voix numérique de mon véhicule Communauto. Je sais, crier après un char, même s'il parle, n'est pas une manifestation particulièrement éclatante de l'intelligence humaine. Voir à ce sujet le film Elvis Graton 2, Miracle à Memphis. Mais on a tous un Elvis Graton en nous. Le mien a donc vociféré à l'intention de mon Hyundai venu que je n'étais pas hors zone, mais bien en station, et que j'en avais sérieusement marre de ce problème. Il m'a fallu attendre 28 minutes au téléphone pour pouvoir redire la même chose, plus poliment quand même, à une préposée. J'avais des bagages à défaire, des enfants à coucher. Oui, j'ai redémarré plusieurs fois la voiture pour tenter de réactiver le GPS. En vain. Si c'était mon premier pépin, je n'en ferais pas de cas. Mais j'ai l'impression que les problèmes sont plus fréquents et que le service est plus difficile à obtenir chez Communauto. Des discussions avec mon entourage et une visite sur les réseaux sociaux tendent à le confirmer. J'en ai discuté avec Marco Viviani, vice-président développement stratégique chez Communauto. Je précise d'abord, écrire cette chronique à contre-cœur. Communauto est une entreprise que j'admire, qui offre ses services dans une dizaine de villes au Québec. Sa mission est nécessaire, réduire le nombre de voitures dans les grandes villes de la province. Cela a des impacts sur la congestion, la pollution, l'espace consacré au stationnement. Je suis membre du service depuis près de 20 ans. Grâce à lui, je vis sans posséder de voiture. Communauto m'a fait économiser des dizaines de milliers de dollars au fil des ans. Je n'ai jamais fait de changement d'huile, ni changé de pneus, et je m'en porte à merveille. Je suis fier de dire que ma famille a déjà réalisé un voyage de pêche et de camping en Prius C. Bref, je suis un fan, au point que lorsque je croise un autre conducteur de Communauto sur la route, je me retiens de lui faire un signe de connivence censé signifier « Hey frère, on est dans la même gang ». Mais quand le métro, le REM ou le réseau routier connaissent des ratés, on en parle. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose avec Communauto. Ça montre que l'autopartage est devenu un service essentiel dont on se préoccupe. Je sens M. Viviani tiquer lorsque j'évoque une baisse de service. Il me cite la couverture géographique qui s'étend, la diversité des modèles qui grandit, les tarifs sont plus flexibles, l'application mobile s'améliore. Il y a beaucoup de progrès juste pour ne citer que ces exemples, dit-il. C'est indéniable. Même si Communauto peine encore à se faire livrer rapidement tous les véhicules qu'elle commande, il est également clair que la disponibilité des voitures s'améliore. Le problème des véhicules faussement déclarés hors zone. Monsieur Viviani m'explique qu'un ennui logiciel a perturbé les fonctions de localisation au printemps et au début de l'été, mais m'assure que le problème est réglé depuis juin 2024. Depuis, une modification récente du code visant à régler un autre problème a toutefois entraîné un pépin semblable. Son occurrence est très rare et liée à des conditions très spécifiques, précise-t-il. Il semble donc que ma séquence noire se soit prolongée par malchance. Marco Viviani me fait réaliser que Communauto gère l'un des plus gros parcs de véhicules en autopartage au monde. En ce sens, il doit constamment inventer ses propres solutions. Peut-être que dans 20 ans, le service d'autopartage sera consolidé et qu'il y aura des fournisseurs et des services plus standards, dit-il, mais ce n'est pas encore le cas. L'entreprise doit aussi gérer une croissance fulgurante. Communauto existe depuis 30 ans, mais les réservations ont encore bondi de 25 % l'an dernier et le nombre de véhicules a progressé de 33 %. Il y a des problématiques qu'on n'avait pas avec 1000 véhicules, mais qui deviennent évidentes avec 4500 véhicules, explique M. Viviani. J'ajoute que Communauto reçoit étonnamment peu de soutien de la part des gouvernements, considérant le rôle qu'elle joue. Là où le bât blesse, à mon avis. C'est en matière de service à la clientèle. Marco Viviani convient que le nombre d'employés qui y travaillent ne croît pas au même rythme que le nombre d'usagers et de véhicules. Il dit miser sur l'intelligence artificielle et une réorganisation du travail pour servir toujours plus d'usagers. j'avoue être sceptique. Un conducteur qui a un problème avec une voiture a besoin de parler à un humain et rapidement. CAA Québec, par exemple, l'a compris. On sait que le temps de réponse n'est pas optimal dans certaines situations. C'est l'un des points les plus importants sur lesquels on travaille, dit M. Viviani, qui évoque aussi la difficulté de recruter des agents et la longueur de la formation qu'ils doivent suivre. Un service d'autopartage viendra toujours avec des inconvénients. À chaque utilisation, il faut trouver un véhicule et se rendre le chercher. Il est impossible de laisser du matériel à l'intérieur. Il arrive de tomber sur des voitures sales ou au réservoir d'essence presque vide. Les usagers tolèrent ces inconvénients tant qu'ils jugent que les avantages les surpassent. Mais si des pépins techniques s'ajoutent au portrait et qu'il faut 30 minutes en plus pour obtenir de l'assistance, l'analyse peut changer. Des gens peuvent décider de s'acheter une voiture ou de conserver la leur. Nous n'en sommes pas là, la croissance de Communauto en témoigne, mais il faut éviter d'y arriver. Et il me semble qu'il est temps d'injecter un peu d'huile dans le moteur de l'entreprise, tout en reconnaissant le superbe chemin qu'elle nous fait parcourir depuis 30 ans. C'était « Je t'aime, Communauto, mais » un texte de Philippe Mercure, paru le 15 août 2024 dans La Presse.
Restaurer le patrimoine architectural québécois une pierre à la fois. Un texte de Roxane Léouzon, paru le 14 août 2024 dans Le Devoir. Que ce soit par passion, par nécessité ou en raison d'une certaine frilosité face à la modernité, des irréductibles pratiques des métiers qui semblent sortir d'une autre époque, non sans les mettre au goût du jour. Suite de notre série « Métiers d'antan », aujourd'hui, le tailleur de pierre. Plus d'une dizaine de gros blocs de pierre grise sont alignés devant l'atelier de Simon Larochelle en Montérégie. Ils seront notamment transformés en pinacles et en lions, puis installés sur le toit d'un bâtiment appartenant à l'Université McGill à Montréal. À l'intérieur de l'atelier, un grand hangar situé près de la maison du tailleur de pierre, une statue de grand félin endommagée attend d'être restaurée et reproduite. On a eu une réunion avec le conservateur et l'architecte. Il faut que j'en refasse un nouveau, complètement, souligne M. Larochelle, qui pratique son métier depuis de nombreuses années. L'artisan sort son compas pour montrer comment il prend les mesures de la pièce à reproduire. Je vérifie la distance entre certains points, comme la crinière et les pattes, explique-t-il. L'expert remplacera aussi des morceaux d'un autre lion, craqué et effrité. Celui-ci est complètement décaloté. Je vais mettre un morceau de pierre et le retailler, explique-t-il. C'est collé avec de la chaux, des tiges en acier inoxydable et des ancrages chimiques. Son métier consiste essentiellement à réparer et à reproduire des éléments architecturaux d'édifices patrimoniaux en pierre. Quand il s'agit de formes géométriques, on peut parler de taille de pierre, alors que les ornements plus détaillés relèvent davantage de la sculpture. M. Larochelle possède les compétences pour faire les deux. Le travailleur autonome a ainsi œuvré à la restauration de nombreux édifices historiques au Canada, dont les parlements de Québec et d'Ottawa, des devantures d'églises dans le secteur de l'Université du Québec à Montréal et le monastère des Ursulines de Québec. Quand je me promène à Montréal, il y a plein d'affaires que j'ai faites. Au Musée des Beaux-Arts, on a refait des gargouilles et des chapiteaux avec beaucoup de détails, raconte-t-il avec enthousiasme. Pour que la différence entre le neuf et le vieux ne se voie pas, Simon Larochelle s'est approprié les méthodes et les outils d'origine utilisés depuis des centaines d'années. C'est une question de respect du patrimoine, précise-t-il. Pour faire la finition d'une inscription en relief, il saisit son maillet et assène une série de petits coups sur son couteau plat. De fines particules de pierre se détachent et s'ajoutent à celles qui recouvrent toutes les surfaces de l'atelier, malgré la présence d'un dépoussiéreur, une machine dont le tentacule pan au-dessus de la table de travail. Après le déclin, M. La Rochelle estime que de 15 à 20 personnes seulement exercent la même profession que lui au Québec actuellement. Il y a plus de 100 ans, les tailleurs de pierre, il y en avait beaucoup. C'était un métier très commun, comme menuisier, parce qu'un grand nombre d'édifices étaient faits en pierre, raconte le quarantenaire. Quand le béton a fait son apparition, le métier a subi un déclin au Québec, dit-il. Les tendances architecturales ont complètement changé, mais beaucoup de bâtiments âgés étaient mûrs pour être restaurés. Pour ça, il faut des connaissances qui s'étaient pratiquement perdues. Il y a eu des Français qui sont venus au Québec car il y avait un manque de main-d'œuvre de tailleurs de pierre, affirme l'ouvrier. M. La Rochelle a pour sa part suivi des cours de sculpture au cégep de Limoilou, où il a particulièrement aimé le travail de la pierre, comparativement à celui du bois ou à celui du métal. Il a ensuite été employé dans des usines de pierre industrielles. C'est au contact de plusieurs tailleurs et sculpteurs d'expérience, formés notamment en France et en Italie, qu'il a acquis son habilité. Aujourd'hui, il souhaite transmettre son savoir-faire à la prochaine génération. Avec d'autres tailleurs de pierre, il a fondé il y a 2 ans une école, les Ateliers de la pierre du Québec, située à Montréal. Pour l'instant, les formateurs offrent surtout du soutien aux membres qui développent des projets pour améliorer leur technique. Il n'y a pas une demande pour un gros bassin de main-d'œuvre, mais il faut quand même de la relève. Il faut que le métier perdure. Ma mission, avant de finir ma carrière, est d'avoir montré la voie à 4 ou 5 personnes qui continueront dans le métier, indique le père de 2 enfants. Selon lui, c'est un métier physiquement exigeant pour lequel la patience, la détermination et la dextérité sont de mise. La pierre peut aujourd'hui être usinée et les ornements faits à la main risquent peu de revenir à la mode dans les nouvelles constructions. Toutefois, le patrimoine, lui, devra toujours être protégé. Il y a de plus en plus de cycles de gel et de dégel avec les changements climatiques, ce qui affecte beaucoup la pierre calcaire. Donc, il se peut que j'aie beaucoup de travail dans les prochaines années, souligne M. La Rochelle. Par ailleurs, il aimerait bien mettre davantage en valeur son côté artistique. Sa cour est parsemée de plusieurs de ses créations souvent épurées, comme une grosse bouche en pierre. On y trouve aussi une œuvre sur laquelle apparaissent les traces des mains de ses enfants et de ses neveux. C'était « Restaurer le patrimoine architectural québécois, une pierre à la fois », un texte de Roxane Léhouzon, paru le 14 août 2024 dans Le Devoir.